Bon matin tout le monde. C'est encore un privilège que j'ai de pouvoir venir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Alors, courbez-vous avec moi, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Oui, Père Céleste, on te demande de calmer nos cœurs ce matin, Seigneur, pour regarder ta parole, Seigneur Dieu, pour regarder combien tu es un grand Dieu, que tu es un Dieu souverain, Seigneur, que tu domines sur toute chose, que tu règnes dans les cieux, sur la terre, et que toute chose t'obéisse, Seigneur Dieu. On veut te louer, Seigneur, et on veut te demander de parler à nos cœurs, Seigneur, de nous enseigner dans ta parole sur ta grandeur et ta souveraineté ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, ce matin, on va voir comment le Dieu de Joseph est un Dieu souverain. Comment Joseph, malgré les épreuves, va faire confiance à Dieu. Jamais il va perdre espoir. C'est l'opposé un peu de ce que Michel nous a parlé la semaine dernière au sujet de Thomas, qui était pessimiste, mélancolique, qui doutait, qui voyait toujours le verre à moitié vide. Joseph, si on peut dire ainsi, a un moral d'acier. Il a appris à faire confiance à Dieu dès sa jeunesse. Ses épreuves commencent dès l'âge de 17 ans et vont se poursuivre une grande partie de sa vie, le début de sa vie. Il sera haï par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné injustement. Ce matin, je voudrais survoler l'histoire de Joseph avec vous et commenter au fur et à mesure les versets qu'on va lire et aussi à la fin, regarder qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie de Joseph. Alors, dans Genèse, au chapitre 30, le verset 22-24, on peut lire ceci. « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alors Joseph, c'est le premier fils de Rachel. Joseph, il a une vision. Dans Genèse, au chapitre 37, les versets 1 à 3, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, servantes de Léa et Rachel, femmes de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres, ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Rappelons-nous que Isaac avait envoyé Jacob chez Laban, son beau-frère, parce qu'il ne voulait pas que Jacob prenne une femme cananéenne pour épouse. Et les filles de Laban, Léa et Rachel, Rachel avait été promis à Jacob. Mais Laban a trompé Jacob en lui donnant plutôt Léa pour avoir travaillé 7 ans avec lui. Je pense vite là-dessus. Genèse, chapitre 37, versets 4 à 11. Là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph suite aux visions qu'il a eues, aux rêves, aux songes qu'il a eus. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda de souvenir de ces choses. J'ouvre une parenthèse ici. Ce n'est pas la première fois que je le fais, puis je le fais encore aujourd'hui, au sujet des songes. J'ai beaucoup de difficultés avec ceux qui disent avoir des songes venant de Dieu. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Mais la plupart du temps, ces songes-là correspondent aux désirs propres des personnes qui les ont. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Puis c'est dans la prière que Dieu nous donne la paix au sujet de sa volonté. Parfois, les circonstances peuvent nous aider à discerner la volonté de Dieu, mais encore là, il faut faire très attention. Les conseils des frères et des sœurs sages ne sont pas non plus à négliger. Quand quelqu'un se sent investi d'une mission par Dieu suite à des songes, j'ai un gros problème avec ça. Dans le Nouveau Testament, les rares mentions de songes se limitent à Joseph, l'époux de Marie, aux mages, la femme de Pilate qui a eu un songe, et aussi Luc qui cite un passage dans Joël avec lequel il faut faire attention de la manière qu'on va l'interpréter. Voici ce que dit Salomon au sujet des songes. « Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. S'il y a de la vanité dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. » Et après ça, il rajoute, « C'est pourquoi crains Dieu. » On trouve ça dans le Proverbe 5, verset 6. Je ne te l'ai pas donné, celui-là, je pense. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut faire très attention, prudence avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Reprenons avec Joseph. Joseph va rejoindre ses frères qui gardent le troupeau. Alors, ils le virent arriver de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Dans Genèse 37, au verset 28, ils ont pris Joseph, ses frères ont pris Joseph, puis ils l'ont mis dans une citerne, un trou dans la terre. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et au verset 36, Genèse 37, verset 36, les madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, jusque-là, on n'a pas entendu Joseph parler. L'auteur du livre de Genèse, il ne nous rapporte pas de paroles, de plaintes de la part de Joseph, de protestations, de découragement, aucunement. Cela nous laisse croire que Joseph savait que Dieu était avec lui, que Dieu le protégeait. À ce point-ci, on ne peut pas affirmer ça avec certitude, mais la suite de l'histoire de Joseph va nous révéler son caractère, sa foi, et nous permettre de penser que dès le début de ses épreuves, il faisait confiance à Dieu. Genèse 39, les versets 7 et 8. Là, les choses vont se compliquer pour Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il en remit entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Alors, Joseph, il avait des principes, puis il s'y conformait. Il avait pris des décisions, puis il tenait ses décisions. Ça aurait été facile pour lui de saisir l'occasion. Lui, un jeune homme dans la vingtaine, avec la testostérone au plafond, ça aurait été facile de succomber à ça. La raison pour laquelle il n'a pas succombé, c'est qu'un jour, dans sa tendre jeunesse, il avait pris une décision, la décision d'observer la parole de Dieu, d'observer la volonté de Dieu. Mais la chose ne s'arrête pas là. Dans Genèse 39, toujours, versets 11 à 13, « Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison, versets 14 et 15, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Laissez-moi vous dire une chose. On ne se fera pas d'illusions. Même si vous êtes une personne, un homme super spirituel, une femme aussi, si vous êtes dans une situation comme ça, c'est danger, danger, danger. Mes frères, aussi mes sœurs, organisez-vous pour ne jamais vous trouver dans une situation comme ça. Jamais vous trouver dans une situation où quelque chose de semblable pourrait vous arriver. Une autre chose que j'aurais à dire là-dessus, si la femme de Potiphar n'avait pas de scrupules pour vouloir coucher avec lui, pour l'agripper comme ça, mentir puis accuser faussement Joseph, pour elle, c'était rien. La plupart du temps, les péchés n'arrivent jamais seuls. C'est tout le temps des combos. Un exemple de ça, c'est lorsque David est allé vers Bathsheba. Il a commis l'adultère avec elle. Il a commencé par la convoiter. Il a commis l'adultère. Il a comploté. Il a fait assassiner son mari. Puis finalement, il a dissimulé son péché. Plusieurs péchés pour le prix d'un. J'en profite pour vous mettre sérieusement en garde. Parce qu'en 2026, on est sollicité de toutes parts par le péché sexuel. C'est un des terrains privilégiés de l'adversaire. Regardez dans la société autour de vous. Regardez la télévision, l'Internet. C'est un des terrains privilégiés de l'adversaire. La télévision, l'Internet, les affiches, les magazines, la tenue vestimentaire. On voit des gens, des fois, hommes ou femmes, de la manière qu'ils sont habillés. Ils envoient un message qui peut être semblable au message que la femme de Potiphar envoyé à Joseph. Danger, danger, prenez vos jambes à votre cou puis fuyez. C'est assez clair, ça. La parole de Dieu est claire avec ça. Joseph, il a pris ses jambes à son cou, mais il a été rattrapé parce qu'il s'est ramassé en prison. Mais l'Éternel, au verset Genèse 39, 21, « Mais l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Quel beau verset! Quel beau verset! L'Éternel étendit sur lui sa bonté. Est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre votre nom là L'Éternel a étendu sa bonté sur moi. Êtes-vous capable de dire ça? Moi, je suis capable de dire ça. Joseph n'est pas abandonné. Il le sait par la foi. Jamais il ne perd espoir. Pourtant, il aurait eu raison de le faire bien des fois. Mais non, il place sa foi en Dieu. Et il vit chaque jour en demandant à Dieu c'est quoi sa volonté. Puis, peu importe la volonté que Dieu va lui montrer, il est prêt à la faire. Il a la ferme intention de suivre la volonté de Dieu. Joseph, il sait que quand ça va mal, c'est pas la faute de Dieu. Puis quand ça va mal, Dieu est quand même là, puis qu'il veille, puis qu'il est au contrôle. Joseph se ramasse en prison et il est un prisonnier modèle. Un prisonnier modèle. Genèse 39, 21 à 23. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui, que par Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ici, la manière que l'auteur rapporte ça, c'est un peu comme si Dieu avait pris une baguette magique puis avait fait clic sur la situation de Joseph pour que toutes les circonstances, que toutes les personnes qui étaient autour de Joseph lui deviennent favorables. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que l'Éternel était avec lui, oui. Mais aussi, je crois que Joseph était avec l'Éternel, que Joseph marchait avec Dieu, avec une foi et une entière obéissance. Joseph, il y avait un témoignage exemplaire. Oui, Dieu était avec lui, Dieu le bénit, mais il était fidèle au Seigneur. Joseph, toujours en prison, Genèse 40, verset 5. Pendant une nuit, une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Alors, les co-détenus, deux co-détenus de Joseph, ont un songe. C'est deux serviteurs du roi, et ils sont troublés parce qu'ils ne savent pas quel sens donner à leur songe. Puis Dieu va révéler à Joseph l'explication des songes et le chef des échansons. Alors, l'échanson, c'est celui qui verse le vin dans la coupe du roi. Le chef des échansons, je présume que c'est lui qui est responsable de tout ce qui regarde le vin dans la cour du roi. Le chef des échansons, il est rétabli dans sa tâche, mais le chef des panetiers, les panetiers, c'est le pain, c'est finalement le chef boulanger, je présume, il est pendu. Le chef des échansons, donc, il est libéré. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Joseph, puis il oublie ce que Joseph avait fait pour lui. Puis, Joseph resta encore en prison pendant 2 ans, jusqu'au jour où Pharaon, à son tour, a un songe lui aussi. Et là, le chef des échansons retrouve la mémoire. Puis, ils vont raconter à Pharaon qu'est-ce qui s'était passé. Il va rappeler sa faute, puis qu'est-ce qui s'était passé, comment il est sorti de prison. Alors, Joseph, le songe, Joseph va être sollicité pour donner l'explication au songe, et Joseph explique le songe. Dans Genèse 41, versets 28 à 30, « Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. » Alors, Dieu fait connaître Joseph, c'est pas Joseph qui a interprété, C'est Dieu qui lui a fait connaître. Il va y avoir une grande famine. Fais des provisions. Fais des provisions. Pharaon est satisfait de l'explication qui va finalement se réaliser. Puis, il va élever Joseph, intendant de tout son royaume. Alors, Joseph, il se ramasse gouverneur du royaume. Joseph gouverne l'Égypte. Dans Genèse, chapitre 40, versets 40 et 41, Pharaon qui parle, il dit, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Et dans Genèse 41, verset 57, « Et tout le pays, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. » Alors, les 7 années d'abondance ont passé et les 7 années de famine arrivent. Joseph est maintenant en position d'autorité. Il est en mesure de mettre en place son plan pour faire en sorte que Pharaon profite de la famine plutôt qu'il en souffre. Il va accumuler le blé pendant les 7 premières années et le revendre à prix fort, puisqu'il y a une pénurie. Son plan est en réalité le plan de Dieu planifié de toute éternité. Le plan de Dieu est éternel. La souveraineté de Dieu est éternelle. On ne peut pas même s'imaginer la sagesse et la science de Dieu. Lorsque, dans le livre d'Ésaïe, ça non plus je ne t'ai pas donné ça, au chapitre 6, le verset 3, « Les anges se disent les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. » Ils veulent dire que Dieu est à part. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui lui ressemble. Il est à part dans tous les domaines de la vie. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Il est omniscient. Il sait tout. Il n'y a rien qu'il ignore parce que c'est lui qui a créé toute chose. Et il est omniprésent aussi. Il n'y a personne, il n'y a rien qui échappe à sa présence. Il n'y a rien qui échappe à sa présence, même les profondeurs de nos cœurs. Il est omniprésent. Rien n'échappe à sa présence. Donc, la famine sévit dans tout le croissant fertile. Et en Canaan, la famine arrive là aussi. Et Jacob, le père de Joseph, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Alors là, on est pas mal plus tard. On est pas mal plus tard. Puis, Jacob, avec ses 11 autres fils, sont encore en Canaan. Joseph, il règne en Égypte. Genèse 42, versets 1 et 2. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Les fils de Jacob sont assis là, puis ils se regardent les uns les autres. Ce n'était pas la bonne chose à faire. Ce n'était pas la bonne chose à faire dans cette situation-là. Dieu a préparé la délivrance pour eux, mais la délivrance ne viendra pas automatiquement à eux. Il va falloir qu'ils se lèvent, puis qu'ils fasse des pas pour saisir la délivrance que Dieu a préparée pour eux. Ils avaient besoin d'agir, de faire des pas pour atteindre cette délivrance-là. Il faut prier et pousser des portes, être en marche. Lorsque les difficultés viennent, même sans difficulté, lorsqu'on veut connaître la volonté de Dieu, c'est pas assis à rien faire, mais c'est lorsqu'on est en marche qu'on est le plus en mesure de connaître la volonté de Dieu, que Dieu est le plus en mesure de nous faire, de nous montrer sa volonté. Entendons-nous, il y a des situations où il faut attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais ici, ce n'était pas une situation comme ça. Les frères de Joseph descendent en Égypte et Joseph reconnaît ses frères. Joseph vit ses frères, il est reconnu, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Alors, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il avait 17 ans. Maintenant, il est rendu à 39 ans. Quand il s'est présenté devant Pharaon, il avait 30 ans. Il y a eu les 7 années d'abondance. Puis là, on est dans la deuxième année de la famine. Alors, c'est 22 ans plus tard, il avait 39 ans. On voit ça dans Genèse, au chapitre 41, à partir du verset 46. Alors, Joseph a maintenant le gros bout du bâton. Attachez vos tucs, ça va barder. Vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Il n'y a personne au-dessus de Joseph, à part de Pharaon dans le pays d'Égypte, puis ses 11 frères arrivent là. L'heure de la vengeance est arrivée. Si Joseph n'avait pas cru à la souveraineté de Dieu, c'est ce qu'il aurait pensé. Mais il sait que toute cette situation-là a été préparée d'avance pour Dieu. Et si Joseph n'avait pas saisi au départ le sens des visions qu'il avait eues, maintenant, il saisit parfaitement tout le sens des visions et il sait que c'est Dieu qui l'a placé là, puis que Dieu, que tout ce qui s'est passé, que toute sa souffrance, l'emprisonnement, la citerne, la vente aux Ismaélites, la prison avec la femme de Potiphar, il sait que tout ça, ça vient de Dieu, que c'est Dieu était au contrôle. Non pas que Dieu a provoqué ça ou a voulu que Joseph subisse ça, Dieu a permis ça pour que sa volonté se réalise. Joseph éprouve ses frères une première fois, puis il est fait mettre 3 jours en prison, puis il va les envoyer chercher leur jeune frère. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. » Alors là, on est dans Genèse 42, versets 18 et 20. 18 à 20. « Je crains Dieu. » Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère. Alors, le jeune frère de Joseph, c'est qui? C'est Benjamin. C'est le deuxième fils de Rachel. Le vrai fils, pas le fils de sa servante. Alors, elle a eu 2 fils, Joseph, Benjamin. « Amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Ils firent ainsi. Quand ils ont entendu Joseph dire « Je crains Dieu », leur cœur a dû bondir un peu. Lui, un Égyptien, il pensait bien que c'était un Égyptien, qui leur fait, pour ainsi dire, une leçon de morale à eux, les descendants d'Abraham qui avaient la promesse. Oui, ça l'a allumé une petite lumière dans leur tête puis dans leur cœur. Parce que regardez ce qui s'est passé après. Genèse 42, versets 21 et 22. Tout de suite après, ils se dirent, alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Rubens, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point ce crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang nous est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Ce qui est frappant avec ce passage-là, c'est de voir que 22 ans après, ses 11 frères, lorsqu'il est arrivé une épreuve comme ça, la première affaire qui est venue à leur tête, c'est le péché qu'ils ont commis en livrant, en vendant leurs frères aux Ismaélites. Le péché, quand c'est pas confessé, ça empoisonne la vie. Ça empoisonne la vie parfois jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de nos jours. Que de maladies physiques et psychologiques sont le résultat du péché? Je ne dis pas toutes les maladies, que certaines maladies. Les psychiatres déterrent souvent, lorsqu'ils rencontrent des patients puis qu'ils les questionnent pour essayer de trouver le problème, déterrent souvent des culpabilités de péchés qui datent de plusieurs décennies. Le remède est pourtant simple. Le remède, c'est la confession et la repentance. Et les frères de Joseph vont apprendre ça. Joseph éprouve ses frères une deuxième fois. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivres les sacs de ses gens autant qu'ils pourront porter, et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras, Genèse 44, versets 1 et 2. Verset 2, « Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. » C'est qui le plus jeune? C'est Benjamin. L'intendant fit ce que Joseph avait ordonné. Alors Joseph les renvoie et demande à son intendant de les poursuivre, de fouiller leur sac et la coupe. Il trouvera la coupe dans le sac de Benjamin, ce qui va terrifier ses frères. Parce que ses frères, lorsqu'ils sont allés rechercher Benjamin à la demande de Joseph, ont dû dire à Jacob qu'il se rendait garant de la vie de Benjamin. Alors là, Joseph, encore là, va nous démontrer que la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose pour lui. Parce que, au lieu de se venger, Joseph va leur dire dans Genèse 45, 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Alors, comme vous le savez, la fin de l'histoire, finalement, Joseph va être la source de délivrance pour Jacob et sa famille, toute sa famille, et Jacob va venir avec toute sa famille s'établir en Égypte, au pays de Goshen, et Joseph va pourvoir à leurs besoins. J'arrête ici l'histoire de Jacob, de Joseph, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire-là. La première chose, Joseph a été enseigné dès sa jeunesse à faire confiance à Dieu. Alors là, le message est pour ceux qui ont des petits-enfants encore. Si votre enfant a un problème ou un désir, Apprenez-lui, dès qu'il est petit, à demander à Jésus. Priez avec lui et même laissez-le lui-même demander à Dieu. Apprenez-lui à faire confiance à Dieu, à être patient. Apprenez-lui que parfois Dieu va dire non, mais que c'est pour son bien. Joseph, pendant tout le temps qu'il était en prison, certainement devait prier pour la délivrance. Quelqu'un lui avait enseigné à faire ça. Je présume sa mère, Jacob, je penserais plutôt à sa mère, mais il avait été enseigné à faire ça dès son enfance. C'est là que le cœur est le plus ouvert, que le cœur est le plus apte à la foi. C'est là que le cœur n'est pas encore contaminé de tout ce qui se voit dans la société. Deuxième chose, ne faites pas comme Léa et Rachel qui ont donné leur servante à Jacob pour satisfaire leur désir d'avoir des enfants. Des fois, on a des désirs, mais on n'est pas patient. Soyez patient, attendez la réponse du Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Il sait qu'est-ce qui est le mieux pour nous autres. Pas seulement ce qui est mieux pour nous autres, mais il sait le moment où est-ce que c'est le mieux pour nous autres de le recevoir. Si vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu, consultez la parole de Dieu. Consultez la parole de Dieu. Priez. Demandez conseil à des frères ou des sœurs autour de vous qui sont sages. Ayez quelqu'un que vous pouvez, de qui vous pouvez recevoir des conseils. Lorsque Luc était vivant, c'était un frère qui était cher à mes yeux. Puis une chose que j'ai appréciée de lui, c'est que lorsque j'avais quelque chose sur le cœur, que j'avais besoin d'un conseil, c'était un homme dédié, un homme de peu de paroles, mais dédié, qui aimait le Seigneur, puis qu'il y avait toujours la bonne parole pour eux. Alors, demandez conseil. Ne vous attardez pas aux rêveries. Une autre chose, la quatrième chose, Joseph est vendu à Potiphar. Il est dans l'épreuve, mais il ne se décourage pas. Il sait que Dieu est avec lui. Il accepte son sort et s'applique avec fidélité dans son travail pour Potiphar. Quand on est en difficulté, il ne faut pas focusser sur la difficulté. Il faut focusser sur Dieu. Puis, il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à notre disposition. Focusser sur Dieu, puis faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a à notre disposition. Surtout, cinquièmement, Joseph fuit le péché avec la femme de Potiphar. Ésaïe 59, 1 et 2, ça non plus je ne te l'ai pas donné. Il dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché, c'est un obstacle à la communion avec Dieu. C'est un obstacle pour nous, pour connaître la volonté de Dieu. Sixièmement, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Mais aussi Joseph marchait avec Dieu. « Ce que l'Éternel demande de toi, Michée 6-8, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Joseph, Dieu y était avec lui, mais lui était avec Dieu aussi. Lui, il s'appuyait sur Dieu. Il faut prier pour connaître la volonté de Dieu, lire les Écritures, prier, mais aussi se lever, faire des pas, pousser des pas. Combien de fois j'ai entendu des frères qui voulaient s'en aller dans le ministère, puis qu'il était assis dans l'église, puis il ne faisait rien. Lève-toi, puis serre, puis le Seigneur va te le montrer, ta volonté, sa volonté. Trois autres remarques au sujet de ce qu'on peut retirer de la vie de Joseph. Ce n'est pas tout de connaître la volonté de Dieu. C'est vraiment important de connaître la volonté de Dieu, mais ce n'est pas tout ça. Ce qui est plus important que de connaître la volonté de Dieu, c'est de la faire. C'est de la faire. C'est ça qui compte. Quand Moïse y a envoyé des espions pour explorer le pays, Josué et Caleb sont revenus, puis eux autres, il y avait un bon rapport à donner. Ils disaient, c'est un pays où coule le lait et le miel. Puis, la volonté de Dieu, c'était qu'ils prennent possession du pays. Mais les autres espions, les 10 autres espions, ils ont dit non, on a peur, c'est un peuple avec des géants. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont marché 40 ans dans le désert. Ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. Neuvième chose, savoir reconnaître la main de Dieu. Joseph sait que toute situation vient de Dieu, il lui rend gloire plutôt que de s'en prendre. Plutôt que d'en prendre le crédit, comme il aurait pu le faire, ou de se venger. Il aurait pu dire, vous m'avez vendu, je me suis sorti d'affaires, je me suis débrouillé, et aujourd'hui, je suis à la tête du pays, puis vous allez payer pour. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a permis ça pour la délivrance. Je ne vais pas me venger sur vous autres. Au contraire, je vais vous prendre sous ma main. Et lorsqu'on réfléchit à ça, on regarde l'histoire de Joseph, on s'aperçoit que Joseph, c'est une image du Seigneur Jésus qui est maltraité injustement, puis qui finalement va être le sauveur de l'humanité. Joseph était le sauveur de sa famille, de ses frères, le sauveur du peuple, le sauveur physique du peuple d'Israël. Dernière chose, n'oubliez jamais que Dieu est souverain. Il ne permettra jamais qu'il tombe un cheveu de votre tête sans sa volonté. Ne cherchez pas à vous faire justice vous-même. Parfois, s'il y a des épreuves ou il y a des persécutions, on peut être porté à vouloir se faire justice. Dieu est au contrôle, même dans ces situations-là. L'histoire de Joseph nous le démontre. Le Seigneur Jésus a dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, n'amasse rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Le roi David, lorsqu'il parle de Dieu, il dit, « Mon refuge, mon appui, ma forteresse, mon rocher, et encore plusieurs superlatifs pour montrer que Dieu qu'on peut s'appuyer sur Dieu parce que Dieu est souverain. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne la grâce de la mettre en pratique.